Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région. Top Music.
Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'essentiel, c'est la santé. Avec nous dans le studio, professeur Pierre Kuhn, professeur en pédiatrie, chef du service de néonatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Votre service est en cours d'obtention de la certification NICAP. Il s'agit d'un programme pour assurer un développement optimal aux nouveau-nés. Et si c'est validé, ce serait le 11e centre hospitalier certifié NICAP dans le monde. Professeur Kuhn, on reviendra sur ce projet NICAP au cours de ce podcast. Tout d'abord, la vision du nouveau-né a-t-elle changé ces dernières années? Est-ce qu'on voit encore le bébé comme on le voyait il y a 20 ans?
Oui, c'est une question très pertinente. Effectivement, la vision du bébé a changé, je dirais peut-être dans les 30 dernières années, avec une meilleure compréhension en fait, de ses capacités, de ses compétences à percevoir ce qui l'entoure.
Cette nouvelle conception du bébé, c'est surtout dû à de nouvelles découvertes dans le domaine des neurosciences?
Oui, tout à fait. Des neurosciences et la psychologie du développement, justement. Le bébé est un être doué de capacités sensorielles, comme je le disais, qui est capable de ressentir la douleur ou l'inconfort, de bien comprendre les différentes caractéristiques de son environnement sonore, visuel, olfactif aussi, sur lequel il s'appuie beaucoup après la naissance. Et donc, beaucoup de recherches dans ce domaine-là ont permis d'éclairer, en fait, la vision qu'on a du bébé et qui était peut-être qui était un peu ancienne. Et du coup, ces recherches ont permis en fait, d'intégrer toutes ces connaissances-là dans les soins aux bébés qui sont hospitalisés après la naissance.
Quand je disais on ne voit pas le bébé comme on le voyait il y a 20 ans, autrefois on disait on laisse le bébé pleurer, il ne faut pas tout le temps le prendre dans les bras. Enfin, on se disait peut-être on était inhumain face au bébé. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un bébé pleurer.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas si on était inhumain par le passé, parce qu'on n'avait peut-être pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais disons, c'est sûr que le bébé s'exprime, est un être social qui cherche les interactions, qui est capable d'influer sur son développement aussi par les interactions qu'il crée, et il a besoin de réponses qui sont attentionnées à son égard. C'est sûr que qu'un bébé qui pleure, c'est un message qu'il envoie et il appelle à une réponse des adultes qui s'occupent de lui, et en particulier ses parents.
Aujourd'hui, dans votre service, vous dites pas question de laisser un bébé pleurer?
Alors, oui, disons, on essaye de... Les pleurs sont quand même un signe très majoritairement d'inconfort. Ça peut être aussi les premières expériences de vocalisation. Mais globalement, oui, quand un bébé pleure, il faut répondre. Ensuite, il faut arriver à décrypter quelle est la cause de ces pleurs. Et la première est bien sûr le pleur de faim, qui est un pleur plus de communication. Mais il y a aussi des pleurs d'inconfort ou de douleur qui pourraient être liées aux soins et à tout ce qui doit lui être donné, prodigué comme soin. Et donc ça, bien sûr, il faut absolument écouter cet appel et essayer de prévenir en fait les pleurs et de faire qu'il n'y en ait plus.
Vous disiez donc que le système sensoriel du bébé est déjà très développé à la naissance. On dit même que les bébés comprennent le langage bien avant de parler?
Alors oui, il y a beaucoup de données, même pendant la vie fœtale, quand le fœtus, le bébé est encore dans le ventre de sa maman, on sait qu'il est capable de réagir et de percevoir des modifications en fait, du langage très fines, et que très tôt, au cours du troisième trimestre de la grossesse, les aires impliquées dans la parole, dans la compréhension, sont activés de façon très fine. Et donc, les bébés prématurés qui naissent plus tôt sont eux aussi capables de comprendre beaucoup de choses du langage. Et ce bain en fait, sonore et vocal pendant le dernier trimestre de la grossesse ou dans les premières semaines de vie va impacter aussi le développement futur du langage du bébé.
Est-ce que dans le même temps, on a amélioré aussi ces dernières années le bien-être des bébés? Certains protocoles ont-ils changé au sein de votre maternité?
Oui, en maternité et puis dans les services de néonatologie. Hein, bien sûr, l'acquisition de ces connaissances et surtout de l'impact aussi de l'environnement sur le développement en fait, du cerveau des bébés, qui est un des enjeux de la prise en charge des bébés qui sont nés plus tôt, nous ont fait forcément changer notre approche de l'enfant pour essayer de mieux soutenir son bien-être, d'éviter les situations d'inconfort liées aux soins hein, pour les bébés hospitalisés, de prévenir la douleur et d'essayer de lui apporter des stratégies d'autorégulation ou de maîtrise de sa douleur.
Ça veut dire que sa confiance en lui, adulte, son équilibre psychologique, il va l'obtenir dès les premiers jours, c'est ça ? Enfin, dès le contact rassurant avec, avec ses parents, avec l'adulte ?
Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça tout à fait, mais disons, c'est sûr qu'on sait maintenant que les premières semaines de vie, que pendant probablement même les deux premières années de vie, on est pour le bébé face à des périodes qu'on dit sensibles ou critiques du développement cérébral, et les expériences sensorielles du bébé, ces expériences d'échange social, sont déterminantes en fait pour son développement ultérieur, et notamment pour l'attachement, en fait, l'attachement à sa figure naturelle de sa maman ou de son papa sont déterminants aussi pour un bon développement futur en fait au niveau psychologique de l'enfant.
Oui, sa confiance en lui, ça va se développer dès les premiers jours.
Alors, il va créer les bases, en fait, de cette confiance ultérieure dans les premiers jours. En tout cas, bon, y a pas que ça, mais disons, on sait que ça commence très tôt. Voilà.
Est-ce qu'il y a une hausse de la mortalité infantile chez les enfants de moins d'un an en France ? Car il y avait un article du Monde récemment qui titrait « L'intrigante hausse de la mortalité infantile ».
Oui, alors effectivement... des chercheurs français de plusieurs équipes ont évalué en fait l'évolution de la mortalité infantile et ont montré qu'il y avait une baisse de cette mortalité infantile jusqu'en 2012, enfin en la regardant sur les 20 dernières années, et qu'à partir de 2012, elle augmentait légèrement, mais qu'elle augmentait de façon significative, je crois de 3,3 à 3,6 pour 1000 enfants, et ce qui était pas observé dans d'autres pays européens. Et donc, c'est effectivement un point d'alerte pour les professionnels de la périnatalité et de l'enfance de bien repenser à leur pratique et d'essayer de trouver quels sont les facteurs en fait, de cette évolution qui n'est pas souhaitable, bien sûr.
Comparé à la Suède, c'est ça ? On est loin dans le classement ?
Alors, oui, effectivement...
parce que vous m'avez cité la Suède comme pays exemplaire où le taux de mortalité infantile est le plus faible du monde.
Exactement, et qui a même progressé entre 2020 et 2021. Et d'autres données avaient déjà montré qu'entre 2010 et 2015, pour les bébés qui naissent plus tôt, qui naissent prématurés, la France n'avait pas progressé en fait en termes de survie et de morbidité, alors que d'autres pays européens, notamment les pays scandinaves et en particulier la Suède, avait progressé et réduit en fait cette mortalité. Et donc, depuis de nombreuses années, la Suède est un modèle en fait pour les soins en périnatalité, et notamment les soins délivrés aux nouveau-nés quand ils naissent plus tôt, dans des conditions qu'ils ont besoin de soins médicaux. Et effectivement, la Suède fait mieux que la France, hein, qui du coup a été, dans cette enquête de 2015, l'a été au 22e rang au niveau européen, ce qui n'est pas bien.
Ça veut dire qu'il y a un sursaut à faire entendre en France, enfin, au sein des maternités ?
Oui, alors les maternités, alors c'est pour les bébés à terme, mais aussi dans les services de néonatologie, là je parlais plutôt des bébés qui étaient prématurés, mais c'est sûr que c'est une alerte, et bien sûr, tous les professionnels de la périnatalité se soucient en fait de cette évolution et essayent de promouvoir... d'autres stratégies pour améliorer en fait cette prise en charge en lien avec les associations de parents et les pouvoirs publics, bien sûr, qui sont déterminants dans ce qu'on peut mettre en place.
Donc il y a encore des progrès à faire, même si déjà beaucoup de progrès ont été faits dans la prise en charge des prématurés. Votre service de néonatologie au CHU d'Haute-Pierre est spécialisé pour les soins des prématurés et des grands prématurés. C'est pourquoi vous candidatez pour la certification NIDCAP que vous devriez obtenir d'ici un an ?
Oui, notre service et toute l'équipe s'est engagée dans un processus d'implantation dans un programme de soins de développement qui est le programme NIDCAP, un programme... de soins individualisés qui soutiennent le développement du bébé prématuré. NIDCAP, c'est l'acronyme anglais. Et dans la mise en place de ces soins, il y a une démarche particulière qui est la certification de l'établissement, la certification NIDCAP. Et cette certification, c'est des critères de qualité de haut niveau qu'il faut atteindre pour réussir. Et donc, on est engagé dans ce processus-là depuis de nombreuses années avec toute l'équipe. Et alors, disons, c'est une marche qui nous tient particulièrement à cœur, qui va dans le sens de ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour améliorer le devenir des bébés, améliorer leur évolution. Et ce programme prend tout son sens, justement, dans les centres de niveau 3, comme on dit, avec une réanimation néonatale qui prennent en charge les bébés grand prématuré, extrêmement prématuré, comme le nôtre.
Et pour préciser, quels sont les progrès aujourd'hui absolument nécessaires dans les services de néonatologie ?
Alors, bien sûr, il y a eu des progrès techniques, médicaux. Hein, les bébés qui naissent très tôt ont besoin d'un environnement de soins. Et il y a eu des avancées dans les 20 dernières années avec différentes stratégies pour aider la respiration du bébé, son alimentation, sa croissance. Mais révolution, on pourrait dire, qui existe depuis de nombreuses années dans les pays scandinaves, justement, qui sont un peu notre modèle, c'est la participation des parents, l'intégration des familles, l'absence de séparation, ce qu'on appelle le zéro séparation entre les parents et leurs bébés hospitalisés, qui sont un des facteurs qui déterminent positivement en fait, l'évolution des bébés. Et donc, c'est ce qu'on appelle les soins de développement centrés sur l'enfant, d'abord, et sa famille, qui sont une des voies de progrès dans laquelle on s'est engagé et dont le programme NIDCAP est une des formes les plus abouties.
Donc vous dites, les parents sont les premiers soignants.
Oui, on essaye de faire que les parents sont les soignants naturels. Alors c'est la traduction un peu impropre, qui est difficile à passer en français d'un terme anglais qui dit « primary caregivers », premiers soignants. Ça veut surtout dire que ce sont les soignants privilégiés de leur enfant pour des soins de nursing et qu'ils doivent être ceux qui interagissent le plus avec leur bébé, même quand il est hospitalisé. Bien sûr, on ne va pas demander aux parents de faire des soins techniques, trop techniques, parce que ça, c'est l'apanage des soignants. Mais par contre, que ce soit eux qui soient auprès de leur bébé le plus souvent possible pour le rassurer, pour le soutenir et pour lui apporter des stimulations positives qui vont être des guides positifs pour le développement du bébé et de ses liens d'attachement avec les parents qui sont déterminants, comme on l'a dit.
J'entendais un parent dire dans votre service qu'il se sentait couvé. C'est ça ? On les chouchoute ?
Oui, disons toute l'équipe, et ça j'insiste, c'est vraiment un travail multidisciplinaire, c'est pas uniquement les médecins, c'est pas uniquement les soignants, tout le monde s'engage dans ce programme-là et tous les acteurs du service cherchent à atténuer en fait le traumatisme lié à la naissance prématurée.
Et, parce que c'est un véritable choc pour les parents.
La naissance avant terme, oui, est quelque chose qui s'impose souvent, dans une bonne partie des cas en situation d'urgence, hein.
Et qui parce qu'on est loin de l'image du bébé rêvé ?
Oui, tout à fait, parce que c'est quelque part l'accouchement prématuré, ou surtout grand prématuré, c'est faire le deuil un peu de la grossesse normale. C'est aussi, ça interroge aussi de façon inconsciente, même si c'est pas du tout fondé, la culpabilité des parents. Et ça reste un traumatisme très fort. D'ailleurs, Charlotte Bouvard, qui est la présidente de l'association SOS Préma, a l'habitude de montrer l'impact de la grande prématurité sur la naissance, en montrant une diapositive où on voit pour les parents, la prématurité c'est ça, et on voit une voiture qui s'est encastrée dans un arbre. Donc ça montre la brutalité du choc pour les parents, et donc ces parents ont besoin de soutien, ont besoin de l'attention de tous les acteurs de soins autour du bébé, à l'hôpital.
On est prématuré avant 37 semaines, donc ça veut dire avant 8 mois, c'est ça ? Et une grossesse normale, c'est 40 à 41 semaines ?
Alors, tout à fait, c'est bien ça. On dit avant 37 semaines. Mais après, dans la prématurité, il y a différents niveaux de prématurité.
Quel est le pourcentage des naissances prématurées ? Est-ce que c'est en augmentation ?
Alors, on dit en France, actuellement, on est à peu près à 8% de naissances prématurées. Donc, il y a un peu moins de 800 000 naissances, ce qui fait à peu près 60 000 bébés par an qui naissent en France prématurés, donc avant 37 semaines. Et parmi eux, parmi ces 60 000, il y en a à peu près 5% qui naissent extrêmement prématurés, c'est-à-dire avant 28 semaines de grossesse, et c'est eux qui sont les plus fragiles.
Donc avant 28 semaines, ça veut dire avant 5 mois de grossesse ?
Avant 5 mois, 5-6 mois de grossesse, quoi. Voilà. Et donc, votre question, c'était aussi, est-ce qu'il y a une augmentation de la prématurité en France ? Oui, malgré les progrès techniques et médicaux, des équipes obstétricales et périnatales, la grande prématurité, la prématurité en augmentation. C'est lié à différents facteurs. Faut savoir que dans la prématurité, il y a une partie qui est spontanée, c'est-à-dire qui s'impose. Tout d'un coup, la future mère se met en travail avant le terme. On a identifié en fait des causes. Par exemple, l'âge de la naissance, de la grossesse, a augmenté chez les femmes en France, et on sait que plus on a une grossesse tardive, plus il y a de risques à un accouchement prématuré. Il y a aussi des conditions environnementale, socio-économique. On sait que quand on est en difficulté, qu'on est exposé à un stress plus important, on augmente aussi le risque de prématurité. Et puis, il y a aussi des causes qui sont liées à ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée, qui est l'aide à un couple qui souhaite avoir un enfant, et ces grossesses-là sont associées à un risque accru de prématurité, malgré en fait l'attention de toutes les équipes. Et puis, donc ça explique, c'est des facteurs qui expliquent un peu cette augmentation.
Et l'augmentation est conséquente quand même, plus 15%, c'est ça, sur ces dernières années?
Oui, on peut dire que c'est à peu près plus 15% en 15 ans.
Voilà. C'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup. Il y a aussi une autre cause qui est la prématurité consentie, c'est-à-dire que quand l'état de santé de la maman ou du bébé à naître le nécessite, on peut consentir à cette prématurité en faisant accoucher la maman plus tôt. Et ça, c'est aussi quelque part une situation qui a permis en fait la prise en charge de bébés qui avant ne seraient peut-être pas nés dans des conditions, mais en acceptant la prématurité. Donc il y a une augmentation, mais qui, pour une part, en tout cas à peu près la moitié, est acceptée aussi, et du fait des progrès aussi dans la prise en charge des bébés.
Donc il y a l'âge tardif des grossesses, la vulnérabilité sociale et la PMA, ce sont les principaux facteurs, c'est ça qui explique cette augmentation des naissances prématurées.
Oui, pour la prématurité spontanée, oui, on peut dire que c'est principalement ces causes-là. Oui.
La médecine d'aujourd'hui a réussi à sauver des enfants qui sont nés donc très prématurés. Jusqu'à quel point vous réussissez à les sauver ?
Alors,
sauver, je ne sais pas si c'est le bon terme.
Disons, à les prendre en charge ou à leur procurer des soins. Alors, on touche aussi, quand on est à la limite de la viabilité, à des questions éthiques aussi, hein, de mise en balance en fait, des bénéfices pour l'enfant et sa famille par rapport au risque. Et bien sûr, plus un bébé naît tôt et plus il naît avec un poids de naissance petit, plus il y a de risques. Et donc, on n'est pas à la recherche de performance. Voilà, mais... Et donc, on dit généralement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit en fait la viabilité à partir d'un âge de plus de 22 semaines de grossesse et d'un poids de plus de 500 grammes. Donc ça, c'est un peu la base de la réflexion. Et disons, ce qui correspond à Strasbourg, dans beaucoup de centres en France, on accepte la prise en charge de bébés à partir de 23 semaines, après discussion avec les parents, et sinon de manière... général à partir de 24 semaines et d'un poids gérant aux alentours de 500 grammes. Maintenant, il y a bien sûr déjà eu des bébés qui sont nés avec un poids plus petit, qui ont survécu en France et bien sûr dans d'autres pays aussi. Je pense notamment à un article il y a quelques années pour un bébé qui faisait moins de 300 grammes, qui avait été pris en charge aux États-Unis dans un état particulier, ou de certains bébés pris en charge au Japon dans des centres où les soins sont mis en place, actifs, très tôt, même dans des situations très défavorables.
Et un bébé né à 500 grammes, est-ce qu'il aura des séquelles plus tard, automatiquement, ou pas forcément? Est-ce qu'aujourd'hui, la médecine réussit donc à limiter les séquelles?
Oui, alors, automatiquement, non, fort heureusement. Et il y a eu des progrès, en fait, à la fois dans la survie. Hein, plusieurs études en France... L'étude Épipage ont montré qu'entre 1997 et 2011, il y a eu des progrès dans la survie des bébés, qu'il y a eu des progrès aussi dans la diminution des séquelles liées à la prématurité, donc on continue à progresser. Maintenant, c'est sûr que les bébés qui sont extrêmement prématurés, à la limite de la viabilité, sont ceux qui s'y sont le plus exposés. Mais pour un bébé qui naît à cet âge-là, à 24 semaines ou à 23 semaines dans des conditions favorables, on a l'espoir...
Qu'il ait une vie normale ?
Qu'il puisse avoir une vie normale, tout à fait. Même si les risques sont quand même importants aussi, qu'il puisse y avoir un retentissement de cette naissance prématurée sur sa vie future.
Et pour limiter les risques, c'est important d'avoir ses parents comme premier soignant? C'est essentiel?
Alors exactement, c'est une des stratégies environnementales, si je puis dire, qui est déterminante en fait pour ça. Et les pays qui ont des très bons résultats dans la prise en charge des extrêmes prématurés, comme à nouveau la Suède, hein, qui ont des résultats meilleurs en fait que ceux en France, sont des pays dans lesquels justement les parents sont présents 24 heures sur 24, où il n'y a pas de séparation, ils sont impliqués dans les soins, donc c'est très probablement un facteur déterminant en fait d'un meilleur pronostic pour la prise en charge de ces bébés très fragiles.
Donc ça veut dire qu'il y a l'aspect technique médical, mais en même temps il y a aussi tout l'aspect relationnel, fusionnel avec le parent.
Et exactement, il y a besoin des deux en fait. Il y a besoin de concilier en fait des soins d'une haute technicité à des soins les plus humains possibles, où la place des parents est déterminante avec les soignants pour procurer un environnement soutenant et le développement et apportant au bébé des stimulations positives pour son développement.
Et le pot à pot donc est essentiel dans la prise en charge des prématurés, c'est ce qu'on appelle la méthode kangourou, et ça peut s'appliquer même si l'enfant fait 500 grammes, c'est ça?
Enfin, oui, tout à fait. Alors la méthode kangourou et le pot à pot, alors le pot à pot c'est un peu la dérivée de la méthode du programme kangourou Mavocare qui a été mis en place en Colombie dans les années 70-80. Pour des bébés effectivement prématurés, mais qui ne pouvaient être pris en charge à l'hôpital et qui étaient pris en portée en fait par le parent au moins 18 heures par jour et allaités exclusivement au sein. Et donc c'était des bébés à partir de 30 semaines, 31 semaines. Et la pratique du pot à pot, c'est-à-dire de porter le bébé peau nue contre le torse de sa maman ou de son papa, et une stratégie dérivée de ça, et alors c'est pas 18 heures par jour, malheureusement d'unité de réanimation, mais c'est possible chez des bébés extrêmement prématurés, avec un très petit poids. Ça nécessite une information préalable des parents, qui on mesure les bénéfices. C'est... Alors, ils sont dans des couveuses, dans des incubateurs, oui, mais qui, et bien sûr, le pot à pot est une alternative tout à fait crédible à l'incubateur. C'est même la place privilégiée, en fait, des bébés. Où on sait que, et le pot à pot a beaucoup de bénéfices médicaux en fait pour le bébé, il a moins besoin d'oxygène, une plus grande stabilité, un meilleur sommeil, il régule mieux sa température, des bénéfices qui sont prouvés aussi bien pour les bébés à terme que pour les bébés prématurés.
Et donc le pot à pot, vous allez le faire aussi dès les premiers jours pour un enfant prématuré, ça
oui,
veut dire?
Oui, tout à fait.
Et on essaie essentiel.
C'est essentiel dans la pratique de soins, oui, tout à fait.
Le pot à pot, ça nous amène aussi à parler de l'allaitement. Donc, quels sont les bienfaits de l'allaitement?
Alors, les bienfaits, encore une fois, ils sont multiples pour l'allaitement. D'ailleurs, on sait que le pot à pot augmente, en fait, ou soutient l'allaitement. Donc déjà, c'est aussi un point positif. Et l'allaitement, pour les bébés à terme, on sait que ça a des bénéfices pour le bébé de réduction, plus grande protection contre les infections, d'une meilleure croissance. Dans le lait de maman, il y a tout ce qu'il faut pour la bonne croissance du bébé, pour son bon développement. Il y a aussi moins d'obésité, par exemple, pour les bébés qui sont allaités au sein quand un maman accouche à terme. Il y a pour la maman elle-même aussi des bénéfices. Hein. Il y a une réduction de certains cancers, il y a moins de maladies cardiovasculaires, moins d'obésité aussi, moins de diabète. Et pour les bébés prématurés, il y a aussi des bénéfices plus marqués sur le développement neurologique. Donc les bébés prématurés qui sont allaités jusqu'à plusieurs mois après le retour à la maison ont un meilleur développement intellectuel, ont un meilleur quotient de développement intellectuel, si vous voulez, que les bébés qui ont pu être allaités jusqu'à ces quelques mois postnatal. Donc il y a réellement, c'est un réel médicament, en fait, le lait de maman. Et toutes les équipes à Strasbourg, mais aussi bien sûr partout en France et dans le monde, essayent de soutenir l'allaitement en cas de naissance prématurée et bien sûr aussi en cas de naissance à terme, hein, puisque voilà, il faut soutenir l'allaitement.
Donc vous demandez tout de suite à la mère d'allaiter, donc ensuite à elle de choisir, mais enfin.
Oui, alors c'est une bonne question que vous posez. Disons, c'est sûr que ça reste un choix de la maman, mais il faut que ce soit un choix éclairé. Et qu'on ait eu le temps de donner aux mères, surtout en cas d'accouchement prématuré, ces informations sur les bénéfices en fait pour le bébé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elles peuvent apporter en plus aux soins de leur bébé que nous on ne peut pas apporter, même si on va utiliser du lait, du lactarium, d'autres mamans en excès quand la maman ne peut pas. Parfois ça arrive, hein, malheureusement, malgré tous ces efforts pour qu'on puisse le donner à son bébé. Mais disons, il faut que ce soit un choix éclairé. Il faut qu'elle prenne en connaissance de cause.
Sinon, la maman peut aussi tirer du lait et donner le biberon si elle.
Alors oui, alors
il y a différentes techniques aussi.
Alors bien sûr, dans l'allaitement, bien sûr, pour un bébé extrêmement prématuré, il peut pas boire directement au sein. Donc c'est la maman qui doit tirer son lait. Donc il y a une phase technique qui est pas simple, hein, qui nécessite beaucoup d'investissement des mères. Mais c'est le lait de la propre maman qui a été tiré, qui est redonné au bébé. D'abord par des petites sondes avant que le bébé puisse téter lui-même et avant qu'il puisse, in fine, avant la sortie, téter directement au sein de sa maman. Et ça, c'est favorisé aussi par le pot à pot.
En tout cas, l'allaitement, le pot à pot, présente de nombreux bienfaits pour tous les bébés, on peut le dire.
Oui, tout à fait.
Et pas que pour les prématurés, c'est un élément essentiel pour le développement de l'enfant.
Tout à fait, mais dont les bénéfices sont encore plus marqués pour le bébé prématuré, mais c'est vrai que les bénéfices existent aussi pour le bébé à terme, vous avez raison.
Et le pot à pot, on le développe de plus en plus aussi pour le papa, je vois pour certaines naissances ou césariennes.
Oui, alors c'est sûr que quand la maman accouche par césarienne, c'est possible de faire du pot à pot avec la maman, mais c'est parfois plus compliqué. Et dans ce cas-là, le pot à pot avec le papa montre aussi des bénéfices, les mêmes un peu que ceux qui ont été décrits pour la mère, sauf bien sûr pour l'allaitement, parce que le papa ne peut pas allaiter. Et dans les services de soins, le papa peut faire du pot à pot. Il est sollicité aussi pour faire du pot à pot, comme la maman, en cas de naissance prématurée. Et il se relaie parfois pour augmenter le temps de pot à pot auprès du bébé.
Et après l'accouchement, pour la santé du bébé, il est important aussi de mieux repérer les situations de dépression.
Oui, alors ça, c'est bien sûr tout à fait le statut psychologique de la maman. Et peut influer bien sûr sur le développement, sur les processus d'attachement, sur les interactions avec le bébé. Et donc la dépression après la naissance est un facteur qui a été montré à même d'altérer en fait le développement ultérieur des bébés. Donc c'est un point très essentiel en fait.
On parle de postpartum, c'est ça ?
Alors il y a la dépression.
Il y a baby blues. Alors
la dépression du postpartum, c'est une réelle dépression. Le baby blues, c'est quelque chose de plus transitoire qui peut accompagner le post-accouchement, mais avec une marche en avant de nouveau et une récupération rapide de la maman. Alors que la dépression du post-partum, elle va durer et peut nécessiter une prise en charge et surtout un dépistage pour justement soigner en fait la relation mère-bébé aussi, qui peut être altérée par ça. Ça rentre d'ailleurs dans le concept un peu des 1000 jours en fait. Où justement l'environnement précoce, les interactions dans cet environnement précoce pendant les périodes critiques du développement qui s'étendent sur les 1000 premiers jours depuis la vie fœtale jusqu'à peu près aux 2 ans du bébé, qui doivent être prises en cause et en compte. Et la dépression du postpartum est un des éléments de ce parcours des 1000 jours.
Oui, et donc il y a eu une commission des 1000 premiers jours. J'ai vu qu'il y avait aussi une distribution actuellement dans les maternités, une box, les 1000 premiers jours. Mm-hmm. C'est un concept important, les 1000 premiers jours ?
Oui, tout à fait. C'est un concept qui a été porté par la commission présidée par Boris Cyrulnik là, en 2019, avec beaucoup de professionnels de différents horizons et qui a permis de mieux identifier, de mettre en place différentes actions tout au long du parcours de ces 1000 jours pour soutenir la parentalité, pour procurer au bébé, au fœtus déjà, à la femme enceinte, un environnement soutenant le développement pour éviter en fait les conséquences d'un environnement défavorable. Et c'est un réel accompagnement, un soutien au bon développement des bébés et à la parentalité. Et donc qui se décline sur différents axes et à différents moments de ce parcours-là. Donc c'est une initiative tout à fait heureuse et qui était vraiment souhaitée par les professionnels.
Est-ce vrai que la santé de l'adulte dépend largement de ce qui se sera passé dans les 1000 premiers jours ? Dans quelle mesure c'est déterminant ?
Oui, alors ça c'est un autre concept qui est lié aux 1000 jours, c'est ce qu'on appelle les DOADs, l'origine fœtale des maladies à l'âge adulte, ou la DOAD ça veut dire Developmental Origin of Health and Disease, donc c'est le fait que certaines maladies cardiovasculaires à l'âge adulte ont fait leur lit dans la période en fait fœtale ou néonatale. Et le premier chercheur qui a mis ça en évidence, qui est monsieur Barker, a montré qu'une restriction de croissance pendant la grossesse, une restriction de croissance fœtale, était associée à un plus grand risque de maladie cardiovasculaire à l'âge adulte. Et il y a eu tout un champ de recherche qui s'est ouvert.
Restriction de croissance, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire un bébé qui naît plus petit ou qui grossit moins que ce qu'on aurait attendu de sa croissance, qui n'est qu'un plus petit poids de naissance que ne l'aurait voulu son terme de grossesse, en fait. Et alors, ça ne veut pas dire que tous les bébés qui sont nés plus petits vont avoir des problèmes, mais ça veut dire qu'on augmente, en fait, ce risque-là, et que un environnement défavorable, en particulier si la croissance n'est pas bonne pendant la grossesse, et ça s'apparente à un environnement défavorable, peut modifier, en fait, le fonctionnement. C'est des mécanismes épigénétiques, modifier le fonctionnement des gènes, du corps, de différents systèmes, et avoir des répercussions plus tard dans la vie.
Un stress aussi, dès la naissance, peut se répercuter plus tard
Par stress, ça dépend un peu ce qu'on entend, si c'est juste un stress psychologique, ou on parle aussi de stress dans d'autres physiologique, quoi. Donc c'est sûr que quelque chose de prolongé, une altération de l'environnement marquée peut influer négativement aussi sur le développement ultérieur dans différents domaines, c'est au niveau du développement cognitif.
Un abandon du bébé, par exemple, par sa mère, ça aura des conséquences plus tard.
Ça rentre aussi dans les 1000 jours, ça. Alors, c'est pas vraiment le concept d'origine fœtale des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte, c'est différent, mais c'est le même principe, en fait. Hein. C'est l'environnement précoce qui peut être déterminant en cas d'événements particuliers, traumatisants sur l'évolution ultérieure des enfants.
Une nouveauté, j'ai vu que les bébés prématurés pourront être soignés prochainement à domicile, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement. Ça va être testé dès cette année ?
Alors, oui. Alors,
est-ce que ça va être testé en Alsace ?
Alors, on espère. On espère parce qu'on va candidater à cet appel à candidature porté au niveau national et que ça rentre complètement dans les soins de développement centrés sur l'enfant et la famille. Que c'était une expérimentation qui est attendue, parce que c'est ce qui existe dans les pays scandinaves depuis de nombreuses années. Alors, c'est pas vraiment de soigner les bébés à domicile tout le temps, mais c'est de raccourcir la durée de l'hospitalisation et qu'un bébé puisse sortir quelques semaines avant de l'hôpital en poursuivant ses soins à la maison. C'est un peu le concept d'hospitalisation à domicile, mais qu'on appelle soins néonatales à domicile.
Donc concrètement, ce sera un bébé qui aurait atteint quel poids
Ça peut être un bébé qui a un poids, aura un poids de peut-être 1600 grammes ou 1800 grammes, qui arrivera à un âge de à peu près de 33 semaines d'âge corrigé. Donc s'il est né à 28 semaines, ce sera peut-être 5 ou 6 semaines plus tard, et qui pourra rentrer s'il a suffisamment de stabilité, qu'il a encore besoin d'être alimenté, même sur sonde, qu'il a besoin d'être surveillé, mais avec des parents qui ont été inclus dans les soins dès le début de son parcours, d'où l'importance de ce concept de soins de développement centré sur l'enfant et la famille, dont cette initiative est un des prolongements, mais fait partie en fait, de tout le parcours. Et ça a été porté très fortement par la Société française de néonatologie et un groupe en particulier, le Green, qui est une commission qui réfléchit à l'environnement des bébés, en lien avec les associations de parents, et qui a été entendue par les politiques et le ministère de la Santé, qui a mis en place cet appel à candidature, dans l'idée de l'évaluer pour, on l'espère, le généraliser autour des centres de néonatologie qui accueillent les bébés grands prématurés.
Donc ça sera testé avec votre équipe de néonatologie du service du CHU de Haute-Pierre à partir de quand ?
Alors, pour l'instant, l'appel à projet n'est pas terminé, donc on candidate comme d'autres centres en France et on espère que notre candidature sera retenue. Et en tout cas, ce qui est prévu pour cette expérimentation, c'est qu'elle dure 3 ans et que ce soit à partir de la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023. Donc, si vous rajoutez 3 ans, ça nous ramène à 2025 ou 2026.
Donc, ça sera un énorme progrès ?
Vraiment, je pense que nous, on attend depuis de nombreuses années, puisque j'ai eu la chance de voir en Suède de mes propres yeux quand j'étais accueilli là-bas et que je trouvais très pertinent et que certains centres avaient réussi à mettre en place en France, mais avec des difficultés en fait organisationnelles qui, je l'espère, seront levées par cet appel à projet et permettront de le pérenniser, et surtout de le diffuser largement en France.
Parce que ça veut dire moins de services médicalisés ?
Ça veut dire que les parents sont là 24 heures sur 24, donc il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'on est dans un environnement qui est beaucoup plus soutenant puisque c'est la maison et ce n'est pas l'hôpital. Il y a moins de stresseurs, comme on dit, de lumière, de bruit, d'alarme. Et donc c'est plus d'un point de vue écologique, écologie au sens de l'environnement, de la niche écologique du bébé, c'est beaucoup plus positif, mais ça doit être accompagné pour que ça se fasse en sécurité et pour que les parents se sentent à l'aise et rassurés. Mais dans tous les pays qui ont mis en place ce type de soins, de structures, ça s'est révélé en fait bénéfique et la perception des parents en fait est très positive.
Bon, on suivra avec attention donc ce projet, ce test des bébés prématurés soignés prochainement à domicile à Strasbourg. Merci beaucoup, professeur Pierre Kuhn, professeur en pédiatrie et chef du service de néonatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Merci à vous.
Oui, merci beaucoup à vous, puis bonne journée.